En l'absence du roi.
Le roi se trouvait à la chasse aux faucons un des derniers jours de mai lorsqu'on vint annoncer à la reine Clémence, la comtesse de Poitiers. Les deux belles-sœurs se voyaient assez souvent, et Jeanne ne manquait jamais de témoigner à Clémence la reconnaissance qu'elle lui devait pour avoir obtenu sa grâce. Clémence, de son côté, se sentait liée à la comtesse de Poitiers par cette tendresse que l'on ressent si volontiers envers les gens auxquels on a fait du bien. Si la reine avait éprouvé un peu de jalousie, ou plus exactement le sentiment d'une injustice du destin, lorsqu'elle avait appris que Jeanne était enceinte, ce mouvement d'âme s'était vite dissipé, quand elle-même s'était trouvée dans un semblable état. Mieux encore, leur grossesse paraissait avoir rapproché les deux belles-sœurs. Elles s'entretenaient longuement de leur santé, du régime qu'elles observaient, des soins à prendre, et Jeanne, qui, avant sa réclusion, avait donné le jour à trois filles, faisait profiter Clémence de son expérience. On admirait l'élégance avec laquelle, à 7 mois passés, Madame de Poitiers portait son fardeau. Elle entra chez la reine, la tête haute, le pied sûr, le visage frais, harmonieuse en son allure comme elle l'était toujours. Sa robe s'épanouissait autour d'elle. La reine se leva pour l'accueillir, mais le sourire qu'elle avait aux lèvres s'effaça lorsqu'elle s'aperçut que Jeanne de Poitiers n'était pas seule. À sa suite marchait la comtesse d'Artois. « Madame ma sœur, dit Jeanne, je voulais vous demander de montrer à ma mère ces tapis de beaux tissus dont vous avez tendu et partagé nouvellement votre chambre. »« En effet, dit Mao, ma fille me les a tant vantés que j'ai conçu l'envie de les admirer à mon tour. Vous savez que je suis assez connaisseuse en ce genre d'ouvrage. » Clémence était perplexe. Il lui déplaisait d'enfreindre les décisions de son époux qui avait défendu à Mao d'Artois de reparaître à la cour. Mais d'autre part, il lui semblait peu habile de renvoyer la redoutable comtesse, maintenant qu'elle était arrivée jusque-là, en se faisant un bouclier du ventre de sa fille. Sa visite doit avoir quelque sérieux motif, pensa Clémence. Peut-être est-elle venue à composition et cherche-t-elle moyen de rentrer en grâce sans trop de peine pour son orgueil? Voir mes tapis n'est sûrement qu'une occasion. Elle feignit donc de croire au prétexte et conduisit les deux visiteuses dans sa chambre, dont l'aménagement venait d'être transformé. Les tapisseries servaient non seulement à décorer les murs, mais étaient également pendues depuis le plafond de manière à cloisonner la vaste pièce en petites chambres plus intimes, plus aisées à chauffer, et qui permettaient mieux aux souverains de s'isoler de leur entourage. C'était un peu comme si des princes nomades avaient dressé leur tente à l'intérieur de l'édifice. La suite de tapisseries que possédait Clémence représentait des scènes de chasse en des paysages exotiques, où une quantité de lions, tigres et autres animaux sauvages bondissaient, couraient sous des orangers, et où des oiseaux aux plumages étranges s'ébattaient parmi les fleurs. Les chasseurs et leurs armes n'apparaissaient que dans le fond des tableaux, à demi cachés par le feuillage, comme si l'artiste avait eu honte de montrer l'homme en ses instincts de carnage. « Ah, les belles choses !» s'écria Mao. « Et comme on a plaisir à voir draps de hautes lisses si bien ouvrés !» Elle s'approcha, palpa le tissu, le caressa. « Jeanne, regardez, Jeanne » reprit-elle. « Comme le grain est uni et moelleux, et voyez le joli contraste entre ce fond ramagé et ses fleurettes piquées d'indigo et le beau rouge de kermesse dont sont faites les plumes de ses papegaies. C'est grand art, vraiment, dans le maniement des laines. » Clémence l'observait avec un peu d'étonnement. Les yeux gris de la comtesse Mao brillaient de joie. Sa main se faisait douce. La tête un peu penchée, elle s'attardait à contempler la délicatesse des contours, l'opposition des teintes. Cette étrange femme, solide comme un guerrier, rusée comme un chanoine, indomptable dans ses appétits comme dans ses haines, s'abandonnait soudain, désarmée, à l'enchantement d'un tapis de haute lisse. Et de fait, elle était certainement, à travers tout le royaume, le meilleur expert qu'on pût trouver. « C'est bon choix que celui-là, ma cousine, reprit-elle. Et je vous en complimente, cette étoffe donnerait à la plus laide muraille un air de fête. Ah, c'est la manière d'Arras, et pourtant les laines chantent avec plus d'ardeur sur la trame. Les gens sont bien habiles qui vous ont ouvré cela. » « Ce sont des hautes lissiers qui travaillent dans mon pays, expliqua Clémence. Mais je dois vous confesser qu'ils viennent du vôtre, les maîtres d'œuvre tout au moins. Ma grand-mère, qui m'a fait envoyer ses tapis à images pour remplacer mes cadeaux gâchés en mer, m'a envoyé aussi les lissiers. Je les ai installés près d'ici, pour un temps, où ils vont continuer de tisser pour moi et pour la cour. Et s'il vous plaît de les employer, ou bien s'il plaît à Jeanne, vous pouvez bien en disposer. Vous leur commanderez le dessin de votre choix, et ils font avec leurs doigts et leurs broches l'image telle que vous la voyez. « Eh bien, ces choses dites, ma cousine, j'accepte de bon cœur, » déclara Mao. « J'ai grand désir d'orner un peu ma demeure où je m'ennuie. Et puisque messire de Conflans gouverne mes lissiers d'Arras, le roi me pardonnera bien de placer un peu vos lissiers de Naples sous ma main. » Clémence accueillit la pointe comme elle avait été dite, avec un demi-sourire. Entre elle et la comtesse d'Artois venait de se glisser cette complicité que fait naître un goût partagé pour le luxe et les œuvres de l'art humain.